Alors, nous revenons à l'Antichrist. Tout cela a été donné à l'Église pour que l'Église soit prévenue. Et comme l'a dit le Seigneur Jésus, que ces événements ne soient pas pour elle une occasion de chute. Évidemment, vous savez, quand les apôtres ont vu la tournure des événements, tournure si rapide, le Seigneur Jésus arrêté, jugé, condamné à mort, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur esprit, dans leur cœur, mais en tout cas, ils se sont enfuis, tous, y compris Pierre, ils se sont enfuis, et puis le Seigneur n'était pas ressuscité que déjà Pierre était retourné à la pêche, à son ancien métier. Hein. Et évidemment, tout s'effondrait, il semblait que tout s'effondrait, et leur foi était bien jeune, et elle a eu du mal à tenir. Alors, dans les temps de la fin, le Seigneur a voulu nous annoncer toutes ces choses pour que nous ne soyons pas surpris, et que nous sachions bien que c'est là le déroulement nécessaire du plan de Dieu. Alors, nous allons aller à Apocalypse 13. Apocalypse, chapitre 13. La bête qui monte de la terre. Alors, nous avons déjà vu un petit peu cela. Lisons les trois premiers versets. D'abord, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes 10 noms de blasphème. » La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. La bête qui monte de la mer, c'est, et tout d'abord, je dis tout d'abord parce que les choses se transforment un petit peu, mais je vais vous expliquer tout cela. La bête est la quatrième bête de Daniel, du livre de Daniel, c'est-à-dire la quatrième monarchie, le quatrième empire, disons, employons ce mot. Quatrième royaume, c'est le mot du texte est royaume. Alors, le quatrième grand royaume, c'est celui-là. Et nous avons vu que c'était l'Empire romain, avec ses diverses phases. L'Empire, il y a eu en effet l'Empire des Latins, puis, à la suite de transformations qui ont affecté cet empire, qui s'agrandissait, qui s'était agrandi de façon énorme, il y a eu, alors au cours de notre ère, l'invasion des barbares, l'invasion des Goths, des Dirois, cela je l'ai mentionné. Si bien que tout ça, c'est quand même le quatrième royaume ou le quatrième empire. Et l'Antichrist, qui, nous l'avons vu hier soir, prend l'identité du Christ, car il ne serait pas un antichrist autrement, il est le dernier faux Christ, celui qui dit, comme nous l'avons lu, de Jésus, c'est moi qui suis le Christ. Eh bien, cet antichrist reçoit un empire. En somme, ce royaume est une contrefaçon du royaume de Dieu. Il reçoit un royaume ou un empire. Seulement, son programme et son action sont à l'opposé du programme et de l'action du Seigneur Jésus-Christ. Alors là, la bête est d'abord cet empire qui a 10 cornes et 7 têtes. Il monte de la mer. Il monte de la mer, c'est-à-dire qu'il sort de l'abîme. La mer et l'abîme sont dans l'Écriture une seule et même chose. La mer, c'est les eaux du dessous. Les ténèbres ont été enfermées dans les eaux du dessous et la mer est l'abîme. Quand Paul, par exemple, a été obligé de nager, eh bien, il dit qu'il a été jeté dans l'abîme, dans la mer, l'abîme. au moment du déluge, les eaux de la mer jaillissent, elles sont appelées les eaux du grand abîme. Et cet abîme est aussi, dans l'Écriture, l'ensemble des peuples enténébrés. En effet, au chapitre 17, verset 15, nous avons « Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Des peuples, des foules, des nations et des langues. Et la prostituée est assise là-dessus, c'est-à-dire que ce sont, en somme, toutes les nations, les peuples, qui sont dans les ténèbres. Pourquoi une bête? Pour représenter un empire, avec ses têtes, avec ses rois. Eh bien, la bête est en effet un royaume ou un ensemble de pays qui sont placés sous un seul et même gouvernement. Un seul et même gouvernement parce que c'est un produit mauvais, immonde, terrible, qui provient de l'action des hommes. Et alors, c'est cette bête affreuse, il y a des dessinateurs qui se sont amusés avec le texte biblique à la représenter, cette bête, ils sont arrivés à des choses vraiment horrifiantes. Alors, le roi qui exercera l'autorité dans cet empire est également vu comme la bête. Alors, ne soyons pas étonnés que la bête désigne l'Empire et désigne en même temps son chef, c'est-à-dire l'Antichrist. En effet, à 17, chapitre 17, verset 11, « Et la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. » Voyez. Par conséquent, le royaume de l'Antichrist et l'Antichrist lui-même sont désignés souvent par le même emblème, la bête. La bête qui a des cornes et des têtes portant des noms de blasphème. Cela n'a rien d'étonnant. Parce que l'homme et le système politique qu'il dirige ne font qu'un. Et il en est ainsi pour le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus et le royaume de Dieu ne font qu'un. En effet, quand le Seigneur Jésus dira à ses disciples « Quelques-uns de vous ne mourront pas qu'ils aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance », et alors, quelques jours après, que leur montre-t-il ? Il leur montre tout simplement sa personne transfigurée sur la montagne. Le royaume de Dieu, donc venant, c'est lui, le Seigneur, venant dans son règne. Donc royaume et roi ne forment qu'un. Ce n'est pas seulement dû à la langue grecque, mais c'est dû à cette manière de voir les choses de la Bible, et il faut que nous nous y adaptions. Alors donc, une bête, c'est un monstre de puissance et d'iniquité. Une humanité divinisée, hors de la souveraineté de Dieu, ne ressemblant à rien de ce que Dieu a créé. En effet, dans la création, on ne voit pas une bête qui a 10 cornes et 7 têtes. C'est quelque chose que Dieu n'a pas fait, et puis c'est un symbole, disons. Alors, pourquoi 7 têtes et 10 cornes, et sur les têtes, 10 diadèmes, sur les cornes, 10 diadèmes, et 7 têtes. Les têtes ne sont pas ici représentatives des rois, mais elles symbolisent la puissance spirituelle, intelligente, et la logique humaine, enfin cette sagesse humaine, disons plutôt. La sagesse humaine, la mauvaise sagesse, mais la sagesse que l'homme se donne lui-même. Les cornes, elles, symbolisent l'autorité absolue, la force brutale. Et les cornes vont en effet, nous le voyons par la suite dans l'Apocalypse, combattre contre l'agneau et contre le peuple chrétien. Sur les cornes, il y a 10 diadèmes, donc les cornes symbolisent, elles, des rois. Des diadèmes, des couronnes, ce sont des rois. Il y a aussi sur les têtes des noms de blasphème. Parce que les têtes, avons-nous dit, représentent l'intelligence, la pensée, les résolutions de la bête, et tout cela s'oriente contre Dieu. Et s'efforce de prendre la place du Christ par des proclamations nécessairement blasphématoires. Prendre la place de Dieu ou du Christ, nécessairement cela vous met dans le blasphème. Au verset 2, la bête qui était, que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Alors tout cela correspond avec le chapitre 7 du livre de Daniel. J'ai déjà dit hier que cette ressemblance à un léopard, c'était la ressemblance à l'empire d'Alexandre le Grand, cette puissance grecque qui s'est soudain étendue tellement sur le monde, vers l'Orient surtout. Elle a les pieds d'un ours. Je ne vais pas vous faire tourner les pages et revenir à Daniel, mais l'ours, c'est précisément l'empire des Mèdes et des Perses, selon Daniel chapitre 7, verset 5, et qui était réputé pour son armée, et c'est dans cet empire des Mèdes et des Perses qu'il y a eu l'apparition de Zarathoustra, qui a fondé une religion dont on parle toujours maintenant. Il y a des écrivains qui aiment bien parler de Zarathoustra, et qu'on a appelé aussi des fois Zoroastre, hein, Zarathoustra, et de sa religion, car tout cela attire maintenant encore beaucoup d'hommes, et particulièrement des intellectuels. Et puis, elle a la gueule d'un lion. Alors, le lion, c'est l'empire babylonien, selon Daniel, qui a duré de 625 avant notre ère à 539, et qui était la tête d'or, le début du temps des nations. Si bien que, voilà que cet empire de l'Antichrist, en somme, tient des trois autres empires qui l'ont précédé. Il y a donc des caractères qui proviennent d'un lointain passé des royaumes du monde, et l'on peut dire que l'empire de l'Antichrist aura absorbé les puissances dont il est l'héritier. Et nous comprenons mieux maintenant la statue du songe de Nebuchadnezzar, parce que tout se tenait, tout formait un seul ensemble, un seul homme, une seule statue. Alors nous comprenons mieux maintenant, tout ça a des liens, ces différents royaumes, le premier, le deuxième, le troisième, et puis le quatrième qui devient l'empire de l'Antichrist, tous ces empires ont des liens entre eux, pas des liens, des liens historiques bien sûr, mais essentiellement des liens d'ordre spirituel. Je ne dis pas spirituel dans le sens de l'esprit de Dieu, mais on dit spirituel aussi dans le sens du mauvais esprit, des mauvais esprits, de l'esprit de Satan. Et en effet, aujourd'hui, si l'on regarde un peu la littérature, les aspirations, les tendances, la mentalité de notre époque moderne, vous y retrouvez en effet le léopard, l'ours et le lion. Et vous retrouvez en effet les tendances qui ont dominé dans les trois premiers empires représentés par le haut de la statue ou par les bêtes du chapitre 7 de Daniel. Les caractères de ces empires sont restés dans le dernier, et l'Antichrist, lui, rassemble tout ça. Il fait un ensemble de tout cela. Au verset 2 toujours, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Le dragon, j'ai dit, c'est le diable, et il lui donne une autorité immense. Le diable est capable de donner, en effet, une autorité très grande à son homme. Les hommes qui se sont séparés de Dieu acceptent Satan, et ils acceptent de Satan la proposition que Jésus avait refusée dans le désert. Satan avait déjà proposé les royaumes, tous les royaumes de la terre, à Jésus qui les avait refusés, bien sûr, même s'il n'y avait pas eu à la clé cette adoration que le Satan prétendait obtenir de Jésus, même s'il n'y avait pas eu ça, Jésus l'aurait refusé parce qu'il ne prend rien de Satan. Même si ça avait été absolument gratuit, Jésus aurait refusé. C'est de son Père qu'il prend les royaumes. Et nous, c'est de Dieu, c'est de Christ que nous recevons quelque chose. Soyons comme Abraham qui dit au roi de Sodome, « Je n'accepterai de toi rien, pas même un lacet de souliers. » Ah, une grande chose, chers amis, à se souvenir dans l'Église. Ne rien accepter du diable, que ce soit à travers le monde ou que ce soit d'une autre manière, ne rien accepter du diable. Le Sadhu Sundersingh nous a montré, nous a donné un beau témoignage de cela aussi. Voyons dans son livre, il y a eu un jour un homme extraordinaire, très mystérieux, qui est venu le trouver et puis qui lui a dit... Mais vous avez une parole d'autorité, une parole magnifique, mais vous parlez quoi, un petit groupe d'hommes isolés là, dans un coin du monde, c'est pas ça, il faut que votre parole retentisse sur le monde, et moi si vous voulez, je vais vous ouvrir les grandes métropoles, je vais vous donner des auditoires par milliers, et vous parlerez à des milliers d'hommes. Et le Sadhu a éprouvé un grand malaise devant cet homme, il a eu un grand mal en lui, et il a reconnu qu'elle était l'auteur de cela, et il lui a dit « Arrière de moi, Satan !» Les propositions de Satan, il faut faire très attention à cela. C'est ainsi que reconnaissant Satan pour maître, les hommes de la fin seront comblés, et ils accepteront l'autorité d'un homme en lequel Satan se sera incarné. D'autant plus que cet homme se parera du beau nom de Christ. Avant que Dieu n'ait investi Jésus de l'autorité royale et ne lui ait donné le règne de ce monde, Satan conférera à son antichrist le gouvernement de la terre, alors même qu'il faut encore conquérir une partie de la terre. Car Satan... ne pourra pas réaliser tout de suite, comme il le voudrait certainement, l'unité de la terre. Satan donc a voulu faire en somme du Christ, avec sa proposition, il a voulu faire du Christ un antichrist, tout simplement. Et ça aurait été pour lui une belle réussite, n'est-ce pas ? Il a voulu faire du Christ lui-même un antichrist. Au verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. J'ai déjà expliqué que cette blessure mortelle guérie, c'était vraiment une mort et un retour, c'est ce que Jean voit. Je ne vais pas revenir sur cela puisque je vous l'ai déjà expliqué. Et nous allons venir au verset 4. Toute la terre, tout de même, dans le verset 3, toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ça, alors là, il va y avoir une sorte d'unanimité de la terre. On va encenser l'Antichrist, être en admiration devant lui. Mais ce n'est pas le vrai Christ. Ils adorèrent le dragon, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Les humains ont un réel besoin de porter leur adoration vers quelqu'un. Ça, ils refusent la foi que Dieu leur propose. Mais il faut qu'ils se tournent ailleurs. Ils ne peuvent pas rester neutres. En adorant Dieu, il reste fermé à toute autre adoration, c'est ce que Dieu entend, bien sûr. Mais en rejetant Dieu ou en l'abandonnant, ils ne pourront pas s'empêcher d'adorer quelqu'un. Et ils vont adorer un surhomme en lequel ils se retrouveront eux-mêmes. Hommes pécheurs, non transformés, non convertis naturellement, ils vont se retrouver, ils vont retrouver l'homme de chair dans cet antichrist paré du beau nom de Christ. Ils vont se retrouver là. Et vous savez combien les hommes aiment se retrouver dans un chef. Voilà comment un chef, d'ailleurs, réunit autour de lui tant de suffrages. C'est que il est l'image vraiment des aspirations des peuples. Ils se glorifieront en celui-là, n'ayant pas voulu se glorifier en Jésus. Ce sera l'enthousiasme, l'adulation, l'euphorie charnelle de tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Et des rois iront jusqu'à abdiquer entre trois rois iront jusqu'à abdiquer entre les mains de l'Antichrist. Et puis, au verset 4, ils diront qui est semblable à la bête et qui peut combattre sur elle? Qui peut combattre sur elle, c'est-à-dire personne ne peut abattre la bête. Elle est inexpugnable. Et puis, qui est semblable à la bête? Ce sera tout simplement la parodie amenée par l'esprit satanique de qui est semblable à toi, ô Éternel, que nous voyons plusieurs fois, tant de fois dans la Bible. Qui est semblable à toi, ô Éternel? Et là, les hommes diront, qui est semblable à la bête? Voyez-vous, toujours la contrefaçon. Au verset 5, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. En somme, la bête n'a d'action réelle que pendant ces 42 mois, parce qu'à la fin, ce sera sa ruine, c'est-à-dire une demi-semaine d'année. Au verset 6, et elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Le caractère de la bête est essentiellement impie. Donc la bête, aussi bien le royaume tout entier que son chef, l'Antichrist, tout cela est essentiellement impie. On y trouve l'orgueil, la provocation haineuse, mais il y a, ça qui aggrave tout, une puissance surnaturelle à l'œuvre. Et cet antichrist s'élèvera au-dessus de Dieu, il niera le Père et le Fils, le règne de l'antichrist deviendra en somme une sorte de manifestation de l'enfer. Et au verset 7 et 8, lisons les versets 7 et 8, « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Entraîné par le vent d'adoration et d'enthousiasme, l'humanité acceptera l'autorité rigoureuse et dure de l'Antichrist, et participera à la chasse aux saints, c'est-à-dire à Israël, à Israël et aux témoins de Jésus. Car, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y aura encore des témoins de Jésus, c'est pas moi qui le dis, c'est dans la parole. Et même la tyrannie sera acceptée par une terre littéralement médusé. La terre adorera comme autrefois les foules médusées adoraient devant la statue de Nebuchadnezzar, ce que nous voyons au chapitre 3 de Daniel. C'est l'envoûtement, la terreur, mais l'on peut dire que c'est l'orgueil des hommes, la révolte contre Dieu qui les aura conduits là. L'orgueil, en somme, individuel, semble plutôt disparaître au profit d'un autre orgueil qui est un orgueil de masse entièrement situé dans la personne de l'Antichrist. Tout le monde sera orgueilleux dans la personne de l'Antichrist. Au verset 9, « Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. » C'est un avertissement solennel pour nous, n'est-ce pas, qui lisons la Bible. « Prenons garde à ce que nous entendons. » Donc, cela nous est utile. D'ailleurs, tout ce que la Bible enseigne est pour nous. Et nous devons prendre connaissance de tout l'enseignement. Au verset 10, « Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Et si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. » Il y aura donc des choses terribles au cours du règne de l'Antichrist, mais Dieu est le vengeur du juste. Toute action sera la marque du choix que chaque homme aura fait pour lui-même. Si quelqu'un tue ou s'il emprisonne d'autres, c'est qu'il est de l'Antichrist et par conséquent, lui aussi encourra la mort. Ainsi, il nous est dit « Attention aux saints, les chrétiens ne seront pas des rebelles, ils opposeront à tous les systèmes, à tout ce qui pourra se préparer sur la terre, même avant le règne de l'Antichrist, ils opposeront la persévérance et la foi à tout ce qui sera contrainte, tout ce qui sera politique, agissant dans le sens de l'athéisme ou du matérialisme, ils opposeront donc la persévérance et la foi. Nous ne sommes pas des engagés politiques. Nous sommes en dehors de la politique qui se pratique. Nous opposons cela. Voilà ce que nous dit le texte. Et nous arrivons maintenant au verset 11 où nous allons voir une autre bête, une seconde bête. Lisons le verset 11 jusqu'à 18. « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. » Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. La seconde bête monte de la terre, c'est-à-dire, elle tire son origine, non de la démocratie, mais des aspirations maléfiques des hommes. La terre, en effet, est rapprochée dans la Bible de quelque chose d'autre. La terre est rapprochée de la chair qui, de l'homme qui a été tiré de la terre, et il y a un rapprochement d'idées entre la terre et la chair. Et par conséquent, la terre, aussi bien que la chair, c'est l'homme se confiant en lui-même. Avoir son nom, par exemple, écrit sur la terre, comme le dit Jérémie, c'est n'avoir rien du ciel. C'est être rivé à la terre que l'on a préféré au ciel et à Dieu. cette bête est donc promue par la terre, c'est-à-dire la volonté d'un monde détourné de Dieu, d'un monde de chair, détourné de Dieu. Et c'est de ce monde livré à l'apostasie et à l'iniquité qu'elle va tirer sa force et son inspiration. Et c'est à ce monde-là aussi qu'elle voudra plaire. Elle aura un caractère religieux, cette seconde bête. Et là, nous est-il dit, deux cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parle comme un dragon, elle parle comme le diable, mais elle a l'apparence d'un agneau, c'est-à-dire apparence de douceur, de patience, elle a de pieuses apparences. Et la réalité est tout autre, elle pratique les ruses de Satan, mais nous ne sommes pas surpris de cela, puisque Satan lui-même nous est montré comme Lucifer, le porte-lumière, l'ange de lumière, et qui fait des choses horribles, terribles, et qui a des paroles perfides. Au verset 12, elle exerçait toute l'autorité de la première bête, c'est-à-dire, en somme, de l'Antichrist, avec son royaume, en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. La première bête ressuscitée. La deuxième bête est donc soumise à la première bête. Et elle use de l'autorité de celle-ci pour compléter, pour parfaire l'adoration des hommes à l'égard de la première bête, c'est-à-dire à l'égard de l'Antichrist. Et en sa présence, ce qui veut dire essentiellement, dans le texte biblique, sur son ordre et à sa gloire. Ce n'est pas toujours qu'il est là, l'Antichrist, pour constater tout, mais cela veut dire sur son ordre et à sa gloire. L'adoration sera obtenue par cet auxiliaire qui est la deuxième bête, et certainement plus complètement et mieux que par la première seule. Vous savez, on a toujours vu ça, d'ailleurs, auprès des grands tyrans, il y avait toujours une éminence grise qui était là, n'est-ce pas, pour projeter toute la gloire, se prendre les peuples, n'est-ce pas, et puis leur montrer la gloire du tyran. Il y a toujours quelqu'un à côté de lui. Au verset 13, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Alors à ce trait-là, ces prodiges, nous voyons quel est le nom de cette deuxième bête. En effet, Apocalypse chapitre 19, verset 20, « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. » Voyez-vous, celui qui fait des prodiges et qui séduit tout le monde, c'est donc la deuxième bête, et il est appelé ici le faux prophète. Donc la première bête est l'Antichrist, la seconde est le faux prophète. Il y aura, et il y a eu, bien sûr, de faux Christ et des antichrists en diverses époques, mais à la fin, au paroxysme de la lutte entre les ténèbres et la lumière, paraissent le dernier antichrist et le dernier faux prophète. Elle fera de grands prodiges par la puissance, naturellement, la puissance surnaturelle de Satan. Tout comme le Saint-Esprit peut transporter une personne, le diable le pourra aussi, le peut aussi. Je fais allusion, là, en ce qui concerne le Saint-Esprit, à Philippe, qui a été transporté. Eh bien, le Saint-Esprit fait des miracles, et le le prophète, le faux prophète, fera lui aussi des miracles dans la mesure de la puissance satanique. Rappelons que les magiciens du Pharaon faisaient certains miracles, pas tous, mais ils en faisaient certains. Il nous est dit qu'elle fera même tomber du feu du ciel, et cela nous rappelle Élie qui faisait tomber le feu du ciel à la vue de tous, et le faux prophète fera cela aussi. C'est toujours, n'est-ce pas, la contrefaçon. Vous voyez, ce qui guide en somme le diable, c'est d'opérer en contrefaçon. Verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Alors là, c'est bien l'Antichrist qui a la blessure de l'épée et qui vivait. Eh bien, de le faire une image. Et cela est dans la ligne de l'apostasie. Dans le plan de Dieu, l'homme, ne l'oublions pas, a été fait à l'image de Dieu. Mais Adam, lui, a en sa personne changé cette image en celle de Satan, en se livrant à Satan. Et là, nous voyons bien que l'image est quelque chose de particulièrement précieux pour l'Antichrist et son faux prophète. Ils ont besoin, en effet, de faire une image à la bête. Nous pouvons déjà comprendre que le faux prophète va travailler à modeler les habitants de la terre sur l'image du faux prophète. Les chrétiens sont prédestinés à porter l'image du Seigneur Jésus, premier-né d'entre plusieurs frères. Eh bien là, la contrefaçon, les habitants de la terre, par l'action incessante et diligente du faux prophète, vont être amenés à porter l'image de l'Antichrist. Ils vont ressembler à l'Antichrist. Ils vont porter les caractères de l'Antichrist. Et bientôt, ils vont porter sa barque. Voilà, en somme, ce que fera plus particulièrement le faux prophète, autrement dit, rendre toutes ces foules dociles, les amener au modèle qui est à voir, à trouver dans l'Antichrist. Et au verset 15, il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Alors là, l'image, ça va loin. Les magiciens égyptiens avaient prétendu faire parler des statues. Simon le magicien et Apollonius de Tyane le prétendaient aussi. Sans doute cela nécessitera un très grand prodige du faux prophète. Et bien des personnes aujourd'hui nous ont dit, oh mais c'est très simple, vous savez, l'image de la bête, l'image qui parle, mais c'est fait ça, la télévision. Ils sont tellement bien renseignés, n'est-ce pas, que tous les soirs ils voient ça, des images qui parlent. Et alors, c'est très simple, on verra la télévision de l'Antichrist. Alors, comme ça, son image parlera. L'Antichrist parlera à la télévision. Ils ont réglé ça, comme du papier à musique. C'est tout à fait simple, n'est-ce pas, d'interpréter la Bible comme ça, mais c'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Parce que, si c'était la télévision, et qui nous présente, peut-être que la télévision à ce moment-là présentera la figure de l'Antichrist et donnera ses discours. Ben, ça c'est bien possible. Ben, mais ce que nous dit la Bible ici est tout autre chose quand même, ça va beaucoup plus loin que cela. Si c'était la télévision, ce serait en somme la technique qui permettrait l'accomplissement de ce que nous dit la prophétie du verset 15, là. Et c'est une prophétie qui doit s'accomplir par puissance surnaturelle. Si c'était la technique, ce ne serait pas un prodige. Ce ne serait pas un prodige. Tandis que là, il s'agit d'un prodige. Alors, Comment cela se fera-t-il? Eh bien, les prodiges de Satan iront loin, assez loin. J'ai dit que Satan n'avait pas la puissance de vie, mais il a une puissance qui peut faire bien des choses. Ainsi donc, une image à la bête, une image qui parlera, et tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête, comme autrefois il fallait adorer la statue du roi de Babylone, eh bien ceux qui n'adoreront pas seront mis à mort. Voyez un peu le régime, n'est-ce pas? Voyez le régime, mis à mort, ce sera radical. Au verset 16, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. » Il faut dire que les hommes salueront dans le fait inouï de cette image qui parle le commencement d'une nouvelle période de l'histoire de l'humanité, une période affranchie de la foi que, vous voyez, petit à petit, et même très vite maintenant, toute la terre rejette. Ça, nous avons maintenant un rejet qui est de plus en plus généralisé, formel. On rejette la foi, on rejette Dieu, on rejette la foi. Le matérialisme a conquis le monde, l'athéisme avec lui, naturellement. Alors là, on se sera affranchi de la foi en Dieu, en un Dieu qu'on ne voit pas, et un Dieu qu'on ne veut pas, parce que c'est un Dieu qui vous parle d'humilité et de repentance et de sanctification. Alors on ne veut pas de cela. On veut être libre, comme on dit, n'est-ce pas, et faire toutes sortes, se livrer en somme au mal. À la place de la foi, l'on se sera donné la vue. Voilà donc un règne, le règne de l'Antichrist, qui sera un règne par la vue. D'ailleurs, on aura un Christ comme on le désirait, un Christ à sa façon, à la façon de la terre. Un Christ, on sera donc dans un règne par la vue, on sera plus tard dans le règne par la vue, le régime de la vue, quand le Christ sera là, hein, quand on verra le Christ, alors là, il n'y aura plus besoin de foi en Christ parce qu'on le verra. Hein. Eh bien, Satan, lui, dans cette nouvelle période, occupera la place de Dieu, le Fils de Dieu sera lui-même remplacé par l'Antichrist, hein. Et alors le troisième personnage, parce qu'il y a une trinité satanique, vous le voyez, le dragon, le diable, l'antichrist, hein, qui prend la place du Christ, et il y a le faux prophète, ça fait trois, et cette trinité satanique donc comprend le faux prophète qui est la seconde bête et qui lui occupera la place du Saint-Esprit. Il fait ce que fait le Saint-Esprit, des actes de puissance, des prodiges. Et alors, il faudra porter une marque sur la main droite et sur le front. Sur le front, ce sera le signe de la pensée, une pensée qui sera celle que voudra l'Antichrist. Et nous avons déjà eu des signes de cela. Vous savez que en Chine, du temps de Mao Tse-tung, et vous savez, Mao Tse-tung, c'est un sujet de grande réflexion, ça. J'ai réfléchi plus d'une fois à ce personnage-là. On l'appelait le grand timonier, oui, et on l'encensait. Et en France, nous avons eu des hommes pour l'encenser. Eh bien, chers amis, c'est quelque chose de lamentable que cela. Parce que Mao Tse-tung, on s'en aperçoit mieux maintenant que des ouvrages sont parus et qui nous montrent que Mao Tse-tung a tué, fait mourir des millions de Chinois. Il est question, dans un livre d'un couple là, deux auteurs qui sont allés là-bas et qui ont enquêté de très près, il est question de 100 millions de Chinois. Évidemment, là, la masse est grande, n'est-ce pas? 100 millions de Chinois. Et les choses qu'il a faites sont horrible, terrible. Et savez-vous ce qu'on disait pendant un moment? Quel était le mot d'ordre imposé partout, dans les écoles, dans les administrations? Chinois, ne pensez pas, Mao Tse-Tung pense pour vous. Ne pensez pas, Mao Tse-Tung pense pour vous. C'était un des types, je ne l'ai pas cité l'autre jour, un des types d'Antichrist. Eh bien, voilà, n'est-ce pas, quelqu'un qui a déjà devancé l'Antichrist, et voilà un peu ce qui se passera, il faudra penser comme l'Antichrist. Et c'est ce qu'indique cette marque, qu'elle soit matérialisée ou non, ou qu'elle soit une marque invisible, sauf avec un rayon laser, comme on nous a dit, n'est-ce pas? Mais de tout sens, ce que ça veut dire, c'est qu'il faudra penser comme l'Antichrist le veut, comme il le dira. Il faudra se livrer sa pensée à lui. Et puis, sur la main droite, c'est l'action. Il faudra agir comme il le voudra. Aucun opposant ne sera toléré, la soumission devra être entière, et ce sera l'avilissement de l'homme. L'avilissement le plus grave qui ait jamais été connu sur la terre, l'avilissement de l'homme. Après avoir rêvé de liberté individuelle, après avoir prôné les droits de l'homme et du citoyen, avoir parlé hautement de dignité humaine, eh bien les hommes, pour n'avoir pas cru à Dieu et à Christ, seront comme un troupeau et tomberont dans le plus terrible des esclavages. Car le corps ne sera pas seul en esclavage sous le régime de l'Antichrist, l'esprit, l'âme le seront aussi. C'est la pire. Le pire des assujettissements. Assujettissement dont nous avons aussi maintenant encore l'exemple dans les pays communistes, d'obédience communiste. Là aussi, j'ai déjà eu l'occasion de vous parler de ce qui se passe dans ces pays, et il y a là une soumission entière, une soumission qui est terrible. Si vous pensez autrement, qu'il est officiel de penser, c'est pas, et même dans la classe dirigeante qui s'appelle la nomenclatura, dans la classe dirigeante, il faut que les gens prennent bien garde de placer exactement leurs paroles, leurs pensées dans le bon courant, parce que sans ça, ils sont vite écartés. Et quelquefois même, emmené dans un hôpital psychiatrique où par malheur, ils ne vivent pas longtemps, et puis, ou bien emmené en Sibérie dans des camps de travail forcés. Alors, vous avez déjà quelque chose, il y a déjà un avant-goût de cela. La ressemblance à Dieu dans ce temps-là sera donc définitivement perdue, sans espoir. L'image de Christ est vraiment remplacée par l'image de la bête qui est celle de Satan. L'homme est définitivement perdu. Et alors viennent les versets 17-18 au sujet du nombre de la bête, du calcul par lequel il faut aboutir à la connaissance, une certaine connaissance de cette bête, de l'Antichrist, hein, et cela, nous le réservons pour demain après-midi.